Chers amis, bonjour. Voici donc aujourd'hui une troisième étape de notre chemin d'accueil de la parole de Dieu dans ces temps de crise. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour accueillir ensemble ces paroles qui viennent nous réconforter, qui viennent nous donner la force pour traverser ce que nous avons à traverser. Hier et avant-hier, nous avons marché déjà avec deux personnages de l'Ancien Testament. Gédéon nous a appris à ne pas subir la situation, mais à la vivre avec la force de Dieu. Jérémie, lui, nous a invités à trouver au fond de nous-mêmes cette force de Dieu, dans l'intimité de la prière. Alors aujourd'hui, c'est avec tout le peuple d'Israël que nous allons cheminer et accueillir ces paroles de Dieu, dans ce moment qui était le plus terrible de son histoire, le moment de l'exil à Babylone. Ce drame de l'histoire du peuple d'Israël a eu lieu en 587 avant Jésus-Christ. Jérémie, qui nous a accompagnés dans notre chemin hier, a été l'un des témoins de cette histoire. Mais si nous voulons comprendre les enjeux de ce drame, il nous faut revenir bien longtemps en arrière. Depuis plus de 1000 ans, Dieu s'était constitué un peuple. Après les temps fondateurs, après la création, après le déluge, après la tour de Babel, Dieu avait choisi un homme, Abraham, pour en faire le père de son peuple, le peuple par lequel il bénirait et restaurerait toute l'humanité. Alors Dieu avait fait de nombreuses promesses à Abraham. Il avait fait la promesse d'une terre où il pourrait séjourner. Il avait fait la promesse d'une descendance nombreuse, aussi nombreuse que le sable au bord de la mer, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et puis, après Abraham, Dieu avait répété ses promesses et il en avait ajouté d'autres. Au cours du séjour au désert, Dieu avait promis qu'Israël aurait un lieu particulier, le lieu saint par excellence, le temple où lui-même, Dieu, habiterait au milieu de son peuple. Dieu avait promis également un roi, le roi dont la mission c'est précisément de créer toutes les conditions pour que le peuple puisse vivre selon la volonté de Dieu, dans la paix. À la mort d'Abraham, le moins qu'on puisse dire, c'est que ses promesses ne sont pas encore réalisées. Abraham habite en terre de Canaan, et il a pu acheter un petit lopin de terre pour enterrer sa femme Sarah, mais ça ne fait pas la terre promise. Sa descendance se réduit à Isaac, le fils de sa vieillesse. On est encore bien loin du nombre des étoiles du ciel. Ses promesses aussi avaient semblé être mises en échec au cours du séjour en Égypte. Mais après l'Exode, ses promesses se sont réalisées. Israël est devenu déjà un peuple nombreux avant même de sortir d'Égypte. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le peuple s'était installé dans sa terre. La promesse de la terre était réalisée. 200 ans plus tard, avec David, Israël a un roi selon le cœur de Dieu. Et quelques années plus tard encore, le fils de David, Salomon, construit le temple de Jérusalem. Dieu habite au milieu de son peuple. Toutes les promesses de Dieu sont réalisées. Mais ça ne dure pas longtemps. Dès la mort de Salomon, le tableau s'assombrit. Le royaume se divise entre Israël au nord et Juda au sud. Le peuple est de plus en plus infidèle. Les menaces des ennemis sont de plus en plus fortes. Au 8e siècle déjà, le royaume du nord, Israël, avait été conquis par les Assyriens. Les habitants du royaume du nord, Israël, ont été dispersés. Un siècle plus tard, ce sont les Babyloniens, avec Nabuchodonosor, qui font la conquête de Jérusalem, qui détruisent le temple. Le roi de Juda, ainsi qu'une bonne partie des habitants, sont emmenés en déportation à Babylone. Alors que reste-t-il maintenant des promesses de Dieu? Le territoire est conquis par les ennemis? Le dernier roi meurt à Babylone? Le temple est détruit? Le peuple, dans son ensemble, est réduit à la plus extrême fragilité. Les déportés de Babylone peuvent composer ce psaume que sans doute nous connaissons, le psaume 136 ou 137. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Cette situation de Jérusalem en captivité à Babylone ressemble bien à une situation désespérée. Le peuple médite, dans son exil, sur les raisons qui ont conduit à cette catastrophe. Le peuple se demande aussi si cette situation qu'il vit est définitive, irrémédiable. Si nous sommes ainsi déportés à Babylone, c'est en raison de nos fautes, de nos péchés, de notre infidélité. C'est parce que nous n'avons pas écouté la voix des prophètes. Nous ne nous sommes pas convertis. Nous avions été prévenus, mais nous avons fait semblant de ne pas entendre. Aujourd'hui, nous n'avons que ce que nous méritons, c'est compréhensible. Mais est-ce perdu pour autant? Même si ce qui nous arrive est entièrement justifié, est-ce vraiment le dernier mot de Dieu? Alors, pendant tout le temps de cet exil à Babylone, le peuple de Juda vit en réalité une période qui est une période fondatrice. Ce temps, c'est le temps de la réflexion, de la relecture, de ce qui a été vécu dans les années précédentes. C'est le temps de la méditation sur le sens de l'histoire. C'est le temps de la réflexion sur le sens des promesses que Dieu a faites à Israël. C'est le lieu aussi où, au fond de l'épreuve, le peuple sent bien que la promesse de Dieu est plus profonde même que l'infidélité du peuple. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Quelques années plus tard, a lieu un renversement de situation absolument inattendu. Les Babyloniens avaient perdu progressivement de leur puissance et un voisin de plus en plus fort, la Perse, va finalement conquérir Babylone. Les Perses, qui sont guidés par le très charismatique Cyrus, prennent le contrôle d'un immense empire. L'une des premières décisions que prend Cyrus lorsqu'il a conquis Babylone a consisté à renvoyer les peuples qui avaient été déportés à Babylone, notamment les Juifs, chacun dans leur territoire. C'est ce qu'on appelle l'édit de Cyrus en 538. 49 ans après la prise de Jérusalem et la destruction du Temple, le peuple de Juda peut rentrer dans sa terre. Le prophète Isaïe n'hésitera pas à parler de Cyrus comme le Messie du Seigneur, celui qui a permis au peuple de Dieu de revenir dans sa terre. Et dans les années qui suivent, les Juifs pourront également reconstruire le temple de Jérusalem, notamment sous l'impulsion du prophète Agée, du gouverneur Zorobabel. Ce que le peuple a vécu dans l'exil à Babylone, c'est une expérience véritablement de mort et de résurrection. Tout avait été perdu, tout est retrouvé, d'une manière nouvelle, plus profonde, par la bonté de Dieu. Alors il ne s'agirait pas pour nous de comprendre la crise que nous vivons aujourd'hui comme étant simplement une punition de Dieu en raison du péché de l'humanité. Les choses sont certainement beaucoup plus complexes et beaucoup plus subtiles que cela. Mais nous pouvons faire un exercice qui est comparable à celui du peuple de Juda emmené en captivité. D'ailleurs, la captivité ressemble peut-être à une forme de confinement. Il est probable que, personnellement ou collectivement, nous ayons, au cours des dernières années, des dernières décennies ou des derniers siècles, fermé nos oreilles à la parole de Dieu. Ce temps que nous vivons aujourd'hui, c'est un temps qui est propice au discernement. Nous pouvons nous poser la question : en quoi nous sommes-nous éloignés de Dieu ? Encore une fois, il ne s'agit pas de lire les événements actuels comme une punition de Dieu. Mais le temps que nous vivons aujourd'hui ne sera pas perdu s'il nous permet de planter des germes profonds de conversion. Le peuple de Juda a vécu une vie nouvelle, et dans les siècles qui ont suivi, il s'est préparé à accueillir son Messie. C'est aussi ce que nous pouvons vivre aujourd'hui en nous engageant personnellement et collectivement dans une démarche de conversion. Alors c'est ce que nous pouvons vivre dès aujourd'hui, et peut-être encore dans les semaines qui viennent, prendre le temps de la relecture. Relecture de notre vie de ces derniers mois ou de ces dernières années, relecture pour reconnaître nos infidélités, mais aussi et surtout pour reconnaître les grâces, les promesses plus profondes que le Seigneur me renouvelle aujourd'hui. Belle journée avec Dieu.